Quand la langue basque était interdite à l'école, tel est le thème de la conférence que nous vous proposons d'écouter. Elle a été présentée par Constance Dupin de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Elle revient dans cette conférence sur cette période d'interdiction de la langue basque à l'école entre 1919 et les années 60. Cette conférence, en partenariat avec l'UPPA, était donnée dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire. C'était le 25 mars dernier à la médiathèque de Bayonne. Nous écoutons Constance Dupin.
Alors bonsoir à tous. Comme on vient de le dire, donc je suis doctorante à ITEM, Identité, Territoire, Expression et Mobilité. C'est le laboratoire à Pau. J'interviens dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire. C'est la 6e édition cette année. Ça existe depuis 2020. Il y a d'autres interventions qui ont lieu aussi à Orthès, à Pau et à Hendaye, aujourd'hui même. Merci à tous pour votre présence. Je vois que la salle est pleine, donc ça me fait très plaisir. Je me présente, je suis aussi musicienne professionnelle, je suis pianiste. Donc je donne des cours de piano en dehors de la rédaction de ma thèse. Je compose et j'écris et j'enseigne à la fac de Bayonne et j'ai des étudiants qui sont venus me voir ce soir parce que je les ai obligés. Non, je rigole. Et même un ancien professeur, ça me fait très plaisir. Mon parcours est un parcours assez classique en tant que juriste. J'ai fait une licence à Bayonne, suivie d'un master spécialisé en droit des mineurs, sous la direction de Kitri Garcia. Ensuite, j'ai travaillé 2 mois au tribunal judiciaire de Bayonne avant de débuter ma thèse de doctorat en mars 2023. Donc ça fait 3 ans pile ce mois-ci que je travaille sur ma thèse. Voilà. Alors, le sujet de ma thèse, parce qu'on m'a déjà posé la question et je réponds, ce sujet-là, ce n'est pas le sujet de ma thèse. Ma thèse, le sujet, c'est ça, les droits et le statut juridique de l'enfant dans la société et la famille basque du XVIIIe siècle à nos jours. Donc, j'étudie la période de 1789 à 1989, 200 ans tout rond. C'est un hasard, mais bon, ça me fait bien plaisir esthétiquement, c'est très joli. 1789, c'est la date de la Révolution française, ça vous le savez tous. Et 1989, c'est la date de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc ça fait 200 ans tout pile. Et moi, j'étudie l'évolution des droits de l'enfant sur cette période-là. Pas tous les droits de l'enfant de manière exhaustive, mais certains droits qui me semblaient pertinents à étudier dans le cadre de ma thèse. Par exemple, parmi ces droits, le droit à l'éducation, le droit de l'enfant de préserver son identité, le droit au repos, à la santé et aux loisirs de l'enfant, ce sont des droits que j'étudie dans ma thèse. Voilà. Le choix de traiter un sujet local va de pair avec l'intention de cette thèse, qui est de montrer l'évolution des droits de l'enfant sur le territoire qu'est le Pays basque Nord. Donc je me focalise sur les provinces basques françaises. Je ne vais pas étudier les provinces basques espagnoles, en mettant en évidence les particularités liées à ce territoire. Montrer l'évolution signifie à la fois montrer les évolutions positives, mais aussi les évolutions négatives. Et s'il en existe, et il en existe bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Ce travail permet également de mettre en exergue toute ressemblance ou toute différence entre la situation de l'enfant en Pays Basque Nord, je ne vois plus personne, et la situation de l'enfant ailleurs, dans toute autre province française, du point de vue des droits, quelle que soit l'époque, donc entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Pour faire un petit historique, les premiers réels droits de l'enfant sont apparus tard au cours de l'histoire, au XXe siècle, même s'ils furent évoqués sérieusement dès la fin du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Bon, par exemple, on peut penser à Rousseau, à Locke, à Condorcet, et pour les femmes, on a par exemple Madame de Genlis ou Olympe de Gouges, vous les connaissez certainement. L'année 1789, elle marque un premier tournant vers les droits de l'enfant. Même si on ne parle pas encore de droits de l'enfant, effectivement, la Révolution française de 1789 introduit plusieurs principes essentiels qui vont transformer les droits et le statut juridique des enfants en France. Au XIXe siècle, certaines lois protectrices en faveur de l'enfant vont apparaître pour des situations déterminées, comme par exemple le droit du travail de l'enfant qui va être encadré, mais elles ne découlent pas de droits propres reconnus à l'enfant. Ce n'est qu'au XXe siècle que les droits de l'enfant voient réellement le jour après les deux grandes guerres mondiales, et le plus grand tournant reste l'année 1989 avec la Convention internationale des droits de l'enfant que je vous ai citée tout à l'heure, qui réunit en réalité tous les droits de l'enfant qui sont importants et que l'on doit connaître. Donc nous sommes là ce soir pour parler de l'interdiction de la langue basque à l'école, un sujet qui constitue une petite partie des recherches que j'ai menées dans le cadre de ma thèse. Je suppose que parmi vous, certains, voire beaucoup, ont subi cette interdiction eux-mêmes, ou connaissent des gens qui l'ont subi, ou sont tout simplement curieux, ou obligés, comme mes étudiants, par exemple. Donc, je vais laisser un petit temps de parole à la fin de mon intervention, qui va durer environ une heure. Je crois qu'on a commencé à écart, donc je vais probablement terminer vers 19h15. Alors, un couteau dans le cœur. Voilà comment Maï, native d'Ustaritz, définit une expérience de vie subie lorsqu'elle était jeune élève. Une expression que l'on pourrait étendre à toute une période de l'histoire en Pays Basque Nord, l'interdiction de la langue basque à l'école. Cette interdiction a traumatisé grand nombre d'élèves sur une période s'étendant du début du XXe siècle jusqu'aux années 50-60, voire jusqu'aux années 70 dans certains villages basques. Bien que ces traumatismes remontent à plus d'un demi-siècle au minimum, les anciens élèves restent taiseux sur ce sujet et n'osent pas en parler. Sauf peut-être aux petits-enfants, car ils ressentent cette urgence de transmettre. Pourquoi ? Eh bien parce que ça fait remonter des souvenirs pas forcément agréables, parce que l'on peut avoir un sentiment de honte, parce que l'on veut oublier. Donc la loi MOLAC de 2021 a ranimé le débat autour des langues régionales, qui s'avère être désormais un serpent de mer en Pays Basque Nord, c'est-à-dire un sujet qui revient souvent sur le tapis, et a surtout rouvert le débat, le souvenir de certaines blessures du passé en apportant des modifications au code du patrimoine et au code de l'éducation. La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, sur toute ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. C'est ce qui est écrit. Alors de ce fait, les victimes de cette interdiction de la langue basque cherchent à comprendre ou à pardonner pourquoi est-ce qu'elles ont dû subir ces choses-là alors que maintenant on a cette évolution dans le code du patrimoine et le code de l'éducation. Alors, quelle fut la raison de cette interdiction ? La raison, c'était promouvoir la langue française. Unique langue de la République, selon la Constitution, mes étudiants en droit constitutionnel, la Constitution française du 4 octobre 1958, qui nous dit à l'article 2, alinéa 1er, que la langue de la République, c'est le français, et uniquement le français. Ça a été introduit dans la Constitution à partir de 1992, avec une révision constitutionnelle. Avant, ce n'était pas écrit dans la Constitution. C'était une politique qui était menée et qui déterminait les règles à l'école. Qu'arrive-t-il aux dialectes régionaux avec ça ? Eh bien, ils passent au second plan. Depuis quand les dialectes régionaux figurent dans la Constitution ? Eux, ils figurent dans la Constitution depuis 2008. Avant, ils n'y étaient pas non plus. Et on le retrouve à l'article 75-1 de la Constitution qui nous dit que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire désormais ? Est-ce qu'on les autorise ? On les protège, les deux ? Qu'en pensez-vous ? Souvent, en droit, il y a la théorie et la pratique. Aujourd'hui, les langues régionales sont en voie de disparition. L'intention est là, mais le résultat, pas vraiment. Alors, concernant cette loi MOLAC, le Conseil constitutionnel a été saisi et il a rendu une décision de non-conformité partielle. Alors, pour les non-juristes, Le Conseil constitutionnel, c'est l'institution qui est chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution et garantir le respect des droits fondamentaux. Et le Conseil constitutionnel nous dit, dans sa décision, que les articles 4 et 9 de la loi Molac sont contraires à la Constitution. Alors, l'article 4, grosso modo, il parle de l'enseignement immersif, donc le caractère immersif. Et l'article 9, lui, il parle des signes diacritiques. Et le Conseil constitutionnel vient nous dire non, c'est contraire à la Constitution. Toujours par rapport à cet article 2 qui nous dit que l'unique langue, c'est le français. Donc voilà, je le répète, l'intention est là, mais le résultat, pas vraiment. Il y a des blocages et une forme de résistance de la part du Conseil constitutionnel. Et tout ça, c'est politique. Alors récemment, d'ailleurs très récemment, parce que c'est depuis le début de ce mois-ci, là, le ministère de la Justice abandonne quoi ? Les poursuites, contre les tildes. Qui a vu ça ? Vous l'avez vu ?
Oui.
Oula. J'ai bien fait de le rajouter. Hein. Donc, ce signe, ils vont retenir que ça de la conférence. Ce signe typographique utilisé dans les langues bretonnes et basques est officiellement interdit à l'état civil en France, même si le code civil prévoit que les prénoms de l'enfant sont choisis librement par ses pères et mères. Voilà. Donc maintenant, c'est autorisé. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même utilise... voilà. Donc c'est un bon exemple. Laurent Nunez.
Ouais.
C'est bien, vous suivez l'actu. Alors, pour revenir à l'expression de Maï, un couteau dans le cœur, moi j'aime bien cette expression, résume bien la situation. Cette expression résume le sentiment général qui découle de l'interdiction de la langue basque à l'école. Combien ont gardé le silence, combien ont subi les punitions, le cœur lourd. Cette étude que j'ai menée autour de l'interdiction de la langue basque n'a d'autre objet que de mettre en lumière une période sombre de l'histoire, en donnant la parole aux anciens élèves du Pays Basque Nord. De nombreux témoignages oraux sont disponibles sur une plateforme de l'Institut culturel basque. Vous connaissez certainement. Minsoak, les voix en français. Et donc ces témoignages recensent les témoignages sonores et audiovisuels qui incarnent la mémoire collective du Pays Basque Nord. Et j'ai essayé de compléter ces témoignages dans mes recherches, puisque ces témoignages doivent être complétés par d'autres témoignages pour la mémoire collective. C'est pourquoi je me suis déplacée aussi chez certaines personnes pour les interroger pour la mémoire collective. Cette notion de mémoire collective, elle est très importante. Qu'est-ce que c'est la mémoire collective ? Celle-ci peut être définie comme l'expérience d'un groupe restreint, que ce soit une famille, une classe d'école ou une association professionnelle. C'est la définition qui est donnée par un certain monsieur Barrache. Cette définition elle peut être complétée par une autre définition de Denis Péchanski, qui est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement de la mémoire de la Seconde Guerre, et aussi ancien directeur de recherche au CNRS. Il nous dit que la mémoire collective, c'est l'ensemble des représentations sociales du passé dans une société donnée. Plus les témoignages sont nombreux, plus les représentations sociales du passé sont justes, plus on a d'informations, plus le résultat est authentique et conforme à la réalité. Si je devais donner ma propre définition de la mémoire collective, je dirais que c'est le désir de partager une expérience vécue avec un sentiment d'urgence et la conscience de l'importance de cette expérience pour l'histoire locale et plus globalement pour l'histoire du pays. C'est la conviction que la transmission et le devoir de transmission dépassent les blessures liées à ce traumatisme de l'interdiction de la langue basque à l'école. C'est en quelque sorte se libérer d'un poids longtemps enfoui. Par exemple, une amatchi peut tout à fait dire à son petit-fils « Nous, on a vécu ça et il ne faut plus jamais que cela se reproduise ». La mémoire collective est à mon sens un outil pour éviter de reproduire les erreurs du passé. C'est aussi la leçon que l'on peut tirer des écrits de Primo Levi, vous connaissez certainement Primo Levi, avec son ouvrage « Si c'est un homme, c'est questo è un uomo », qui a été publié en 1947, et il joue un rôle essentiel dans le passage de la mémoire personnelle, à travers les témoignages, à la mémoire collective, la conscience historique partagée. Et donc, selon lui, transmettre, c'est une forme de responsabilité qui appartient à tous. Alors, les témoignages que j'ai recueillis s'étendent sur la période de ma thèse, c'est-à-dire donc de mars 2023 à aujourd'hui. Et le champ d'étude se porte sur le Pays basque nord, je l'ai déjà dit, les trois provinces basques françaises. Le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule. J'ai mis des flèches aux endroits où j'ai trouvé le plus de témoignages, le long de la côte, Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Biarritz, mais aussi l'ancienne capitale du Labourd, Ustaritz, Cambo-les-Bains, qui représente Cambo-les-Bains ce soir. Ensuite, je suis allée jusqu'aux Aldudes pour interroger une ancienne institutrice, Henriette. Je suis allée à Idomendi, aussi, en Soule. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, moi, quand il me parlait, il me disait Ido. 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 Ah, quand il me parlait, il me disait Ido. Hein. Ah. Ah. Allez, ça y est, c'est fini. Bon, ben, je vais plus parler. Non, je rigole. Donc, tous ces témoignages, je les ai recueillis voilà, sur la période de 2023 à aujourd'hui. Et ils permettent d'avoir une idée, ça j'en parlerai plutôt en dernière partie, mais une idée des punitions qui ont été données quand la langue basque était interdite à l'école. Alors la langue basque, dite Euskara, n'est pas une simple langue pour les Basques, c'est toute une culture et une identité qui se cache derrière. Un Basque se définit lui-même par sa langue, l'Euskara, en se désignant comme Euskaldun. Ça, c'est ce que nous explique Jacques Allière dans son ouvrage « Les Basques ». Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Euskaldun? C'est le terme qui veut dire celui qui possède l'Euskara, donc la personne qui parle la langue basque. Autrement dit, le basque par essence est celui qui parle la langue basque. Inversement, celui qui ne parle pas la langue basque n'est pas un basque pour les puristes, puisque c'est ça le critère pour déterminer un basque. Le fait de parler la langue basque est une condition sine qua non pour définir le basque et l'identifier en tant que basque dans la communauté basque. Bien entendu, l'enfant qui maîtrise la langue basque peut tout à fait maîtriser d'autres langues en même temps, dont la langue française. Le tout, c'est qu'il utilise et qu'il comprenne la langue basque aisément comme une langue maternelle. La plupart du temps, l'enfant basque, est polyglotte. Il peut tout à fait être bilingue, trilingue, quadrilingue. Et c'est un atout, notamment, pour voyager. Je ne vais pas parler de ça ce soir, mais tout ce qui est diaspora basque, ça doit vous aussi vous intéresser et vous parler. Donc voilà, par rapport au terme Euskaldun, très important. Alors, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée à ce sujet-là? En fait, si l'enfant basque a déjà été étudié, c'est uniquement à travers les questions de maternité, d'héritage, l'enfant en tant qu'héritier, parce qu'en Pays basque, on se moque que ce soit une femme ou un garçon pour hériter, l'indifférence du sexe, c'est typique d'ici, Pays basque. Donc je disais, voilà, on a étudié l'enfant à travers la maternité, l'héritage, la langue, sous le prisme de la langue, souvent pour défendre l'identité basque ou le bilinguisme. Mais l'enfant basque, en tant que personne et sujet de droit, n'a jamais fait l'objet d'une étude particulière en ce qui concerne l'évolution de ses droits et de son statut juridique. Donc il est temps de mettre à l'honneur l'enfant basque grâce à l'histoire du droit. Mes travaux viennent compléter ceux qui ont été déjà faits, évidemment, notamment des femmes Maïté Lafourcade, Marie-Pierre Arrizabalaga, Maïté Lagrenade et Marie Dabadi d'Arast. Bon, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont les plus connus ou les plus médiatisés dans le domaine de la recherche scientifique ou de la littérature. Un quatuor exclusivement féminin. Souvent, l'enfant, c'est un sujet qui intéresse davantage les femmes. L'enfant basque fait l'objet de peu de thèses et il semblerait que les femmes s'y intéressent davantage que les hommes, puisque sur 22 thèses, par exemple, 20 sont écrites ou en cours d'écriture par des femmes, dont moi-même. Et ça se retrouve même dans les inscriptions en master, puisqu'il y a une majorité de femmes dans le master, par exemple, à Bayonne, droit interne et européen des mineurs. 95%, voire 100%, ce sont que des filles. Hein. Ah, il y a un seul garçon cette année, me dit Monsieur Riem, qui est professeur à la fac. Donc force est de constater que les femmes règnent en maître sur les sujets scientifiques qui touchent à l'enfant basque. En l'espace de 40 ans, des années 80 à aujourd'hui, seulement deux hommes se sont penchés sur la question de l'enfant basque dans le cadre de la recherche scientifique. La production scientifique sur l'enfant basque est donc marquée par des rapports de genre. Voilà, je vous donne l'information. Pour revenir au sujet, donc les enfants basques ont subi différents traumatismes du XVIIIe siècle à aujourd'hui, à cause de leur langue, si on peut dire. Et lorsqu'on parle de traumatisme quant à l'interdiction de la langue basque, il peut s'agir de traumatismes physiques, donc des atteintes corporelles, mais aussi de traumatismes psychologiques, des atteintes psychologiques et émotionnelles, parfois les deux. On peut ainsi parler de double traumatisme. Au XVIIIe siècle, la langue basque avait déjà été interdite, notamment entre 1792 et 1794. Cette période correspond à la terreur en France, c'est-à-dire la période de l'histoire suivant la Révolution française, où les ennemis de la République étaient éliminés. De nombreux enfants basques furent déportés au cours de cette période. Parmi les villages concernés, on retrouve Asquin, Sar, Ainhoa, Souraid, Espelette et Itsassou, Louossoa, Bidaraï et d'autres. Les déportés basques étaient affamés. Ils grignotaient des morceaux de pain remplis de chagrin, insultés, humiliés et fatigués de leurs insomnies. Ils pouvaient facilement tomber malades, les conditions étaient déplorables. Les personnes les plus touchées, c'était les enfants et les personnes âgées. Les familles pouvaient être séparées. Les femmes pouvaient accoucher, je cite, sur des charrettes ou pendant la nuit, sur la pierre nue dans les églises. Aucune aide n'était apportée, ni aucun soin pour la mère et son nouveau-né. Alors, lorsque la population basque était déportée, c'était souvent en Espagne ou dans les Landes. À partir du 5 mars 1794, plus de 160 personnes d'Asquin ont été arrêtées pour être déportées. C'est ce qu'écrit Alexandre de la Cerda dans son ouvrage « La déportation des Basques sous la terreur ». Peut-être que parmi vous, certains ont assisté à une de ces conférences, comme celle qui a été donnée à la Villa Arnaga en juin 2024. Les enfants survivants pouvaient rechercher leurs parents. Ils erraient de commune en commune, visiter les églises, les prisons des déportés, et parfois ils finissaient par retrouver leurs parents, mais morts. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. Ensuite, là je vais enchaîner avec... ça c'est pour ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle. Là je vais parler du XXe, je vais revenir sur le XXe siècle et l'interdiction de la langue basque à l'école au XXe siècle. Donc à l'école, les élèves étaient dès leur plus jeune âge, du fait de leur esprit très influençable, punis. Ils étaient punis lorsqu'ils parlaient la langue basque. Et une méthode des méthodes répressives étaient mises en place par les instituteurs pour dissuader les enfants d'utiliser cette langue en classe. Ce type de dissuasion s'appliquait dans d'autres régions françaises aussi, ce qui, par exemple, il fut interdit de parler le patois au sein des écoles de l'arrondissement de Cahors à partir de 1835. Le patois était qualifié de langue vulgaire. C'est l'article premier de l'arrêté du préfet qui énonce que le dialecte patois est interdit dans les écoles primaires de l'arrondissement de Cahors. Les instituteurs ne l'emploieront jamais et veilleront sévèrement à ce que les élèves n'en fassent pas usage. Ma grand-mère maternelle est originaire de Cahors et elle se souvient de la perte progressive de la langue régionale. Donc, en fait, ce n'est pas qu'au Pays Basque que l'on a dû faire face à l'effacement des langues régionales. De la même manière, la thèse de Michel Lafon met en exergue le problème de l'interdiction des dialectes régionaux au sein des écoles. Nous pouvons faire un rapprochement avec l'interdiction de l'euskara au sein des écoles, évidemment. Il s'agit de mettre en avant la langue française partout en France. La politique et l'unicité du langage. Ce que développe aussi Michel Lafon dans sa thèse, c'est que pour donner plus de force à l'interdiction des dialectes régionaux, des menaces de répression sont formulées envers les enseignants qui auraient quelques états d'âme. Donc on voit bien qu'on incitait les professeurs à punir et à privilégier tout le temps la langue française, l'unique langue de la République. Alors plus d'un siècle plus tard, après cet arrêté, les dialectes régionaux, tels que donc, le patois, l'occitan, le basque, sont toujours interdits au sein des écoles. Il faudra attendre la loi d'Exon dans les années 50. Effectivement, dans les années 50, on a cette loi qui vient autoriser l'enseignement des langues régionales, comme l'euskara, la langue basque, dans les écoles publiques. L'adoption de cette loi, en 1951, est positive pour tous les enfants scolarisés dans le public après cette date. C'est un tournant pour les enfants basques. Toutefois, la pratique de cette langue régionale est limitée à 3 heures par semaine. Ceci est peu, mais constitue une première avancée pour le droit de l'enfant basque de parler sa langue régionale, souvent sa langue maternelle. Donc, parmi les prémices de la protection de l'identité basque, indirectement, on note la loi d'Exon. Cette loi est à l'origine de la création, plus tard, dans les années 70, des premières ikastola. Et si en 1951, la loi d'Exon autorise l'enseignement facultatif des langues régionales, son application reste quand même laissée au bon vouloir des professeurs. Pendant un temps, au XXe siècle, la langue basque fut interdite à l'école. Les enfants étaient donc punis pour l'usage de leur langue maternelle. Et ces punitions variaient en fonction de différents facteurs, notamment la localisation de l'école et la période de scolarisation au Pays Basque Nord. Avant d'aborder les punitions subies par les enfants basques en Pays Basque Nord sur la période post-Grand Guerre jusqu'aux années 50-60, voire jusqu'aux années 70, pardon pour le bug du micro, il apparaît opportun de rappeler que les punitions données à l'école ne sont pas systématiquement liées au fait de parler la langue basque. Comme ailleurs en France, de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein, les enfants peuvent subir des punitions pour tout écart de conduite. Jean-Pierre Biscay, basque né le 1er octobre 1896, évoque ses souvenirs à l'école de Tardets dans une revue basque. Il qualifie l'école de pittoresque et évoque ses deux maîtres, M. Iriard et M. Maurice, son frère, qui n'était que moniteur. Alors, son maître, il avait à la main un long sceptre qui était en réalité une baguette de noisetier qui s'égarait parfois sur quelques dures caboches aux cheveux ras. Bon, il se faisait taper sur la tête, hein. L'élève en question était répugné par la discipline rigide qui, selon lui, fait penser aux moyens coercitifs qui datent du Second Empire. Les maîtres pouvaient être violents, une violence physique et psychologique, et de vieilles méthodes d'intimidation et d'humiliation étaient utilisées. Un jour, cet élève-là dont je parle, il a été couché entre deux étagères du placard qui a été fermée à clé, et l'enfant fut libéré quelques temps plus tard. Le maître utilisait aussi l'épreuve du cachot. À cette époque, les maîtres avaient le pouvoir de traumatiser certains enfants. Ces vieilles méthodes d'intimidation et d'humiliation se retrouvent lorsqu'on étudie les punitions infligées aux élèves en Pays Basque Nord. Le dénigrement de la langue basque et la délation étaient à l'ordre du jour. Manex Goenech écrit « La première fois de la journée qu'un élève prononce un mot en euskara, l'instituteur lui donne un bout de bois en guise de signe distinctif. S'il l'a conservé à la fin de la journée, il est puni. Aussi doit-il surveiller ses camarades pour transmettre le signe à celui qui aura le malheur de lâcher un seul mot en basque. » C'est le principe qui était appliqué un petit peu partout dans les trois provinces Pays Basque. C'est pour ça que j'ai pris cette citation, qui est assez parlante. Des pratiques analogues pouvaient être utilisées ailleurs en France ou même à l'étranger. Dans un autre livre autobiographique, on apprend que en 1936, l'élève qui rentre à l'école, ne parlait pas un seul mot de français. Et c'était le cas de beaucoup d'enfants qui sont retrouvés dans ce cas-là, en débutant sans savoir parler un seul mot de français et en rentrant à l'école uniquement en sachant le basque. De nos jours, donc après 2020, les enfants de la Première Guerre sont tous centenaires, les enfants de la Seconde Guerre sont octogénaires, nonagénaires, et ils décèdent les uns après les autres. C'est joyeux. Les témoins décèdent et leurs souvenirs précieux disparaissent, c'est pour ça que je dis ça, avec eux. Et pour remédier à cela, certaines personnes ont écrit des autobiographies ou ont donné leurs témoignages. Par exemple, je pense à un livre, un ouvrage où des amachi donnent leurs témoignages concernant les punitions en cas d'utilisation de la langue basque à l'école. Ça parle de ça, mais aussi d'autres choses. C'est dans Parole d'Amachi, peut-être que vous l'avez déjà lu, cet ouvrage de Gabi Etchebarn. En général, il est connu, celui-là. D'autres personnes ont accepté de donner leur témoignage oral ou écrit à des collecteurs bienveillants, tout ceci au profit de la mémoire collective, dont j'ai parlé tout à l'heure. De plus, comme l'explique Henri Duhaut dans son ouvrage, le devoir de transmission est nécessaire pour que les enfants basques de nos jours aient conscience de ce chapitre sombre de l'histoire, pour qu'ils aient toujours souvenance du passé et de ce combat pour la préservation de la langue basque. Alors, je vais vous mettre... ça, vous connaissez parce que vous l'avez vu. Qui l'a vu ? Levez la main, juste ceux qui... Oui, le film de Yoshu Martinez qui... Biscar Cholo. Ok. Bon. Je peux augmenter le son.
Denak eskualdunak izaitetik, euskualdunak mutiengoa izaitera. Frantziako nazioa eraikitzearekin batera, pentsatu da behar zela eliminatu Frantziako beste kulturak.
Filmaren parte handi bat Baigorrin grabatua izan da, ez bakarrik aktore profesionalekin, berreun bat herritarrek ere parte hartu baitute, alamola ikastolako ahu batzuek duela berrogei urte, hizkuntzaren egoera nolakoa zen hobeki ezagutu.
Aurrentzat aski gogurra izan dela bizitzak, nabeatzen eta nago eta bian, ez zuten aizu eskolat bintzatzea, eta ez zuten sobra tokirik kastolatzak.
Herritarrekin lan egiteak kartzen zuen nunbait ari zirela beren historia beren gorputzean bizitzen, ez? Modu intimo batean eta ekarri duela egiazkotasuna eta realismo bat.
Bizkar Xolo filma Euskal Herriko hainbat zinema gelatan ikusgai gaurti goiti.
Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée.
Voilà. Donc ce film, il est sorti le 12 janvier 2024. Il met en exergue l'interdiction de la langue basque à l'école au XXe siècle. C'est une critique subtile des difficultés rencontrées par les élèves, évidemment, qui étaient à la fois culpabilisés de ne plus parler leur langue, et aussi leur langue maternelle, mais aussi culpabilisés de ne pas assez bien parler le français. Donc les familles basques encourageaient les enfants à parler de la langue basque au sein de l'Etxe, à la maison. Et, à contrario, les professeurs insistaient sur la langue française pendant les heures de classe. Les enfants se retrouvaient tiraillés entre la pratique de leur langue natale, celle du cœur, et leur obligation de parler le français. Différents témoignages, notamment oraux, existent. Ils ont été complétés par mes recherches, comme je vous l'ai dit. Les témoignages recueillis concernent à ce jour un échantillon de 26 sujets qui sont nés scolarisés, qui ont été scolarisés en Pays Basque Nord entre 1919 et 1971, c'est-à-dire la période post-Grande Guerre, jusqu'aux années 60, voire 70, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui nous importe quand on fait une étude sur un échantillon, c'est évidemment la qualité plutôt que la quantité. Les différents témoignages permettent de prouver les punitions subies par les enfants au XXe siècle lorsqu'ils parlaient leur langue maternelle. Ils permettent de démontrer que les punitions n'étaient pas non plus systématiques, mais dépendaient de la localisation de l'école, du professeur et de sa tolérance. J'ai pu remarquer que même les anciens élèves dits épargnés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas subi l'interdiction de la langue basque, eux-mêmes aussi connaissent cette interdiction et ou l'ont observée sans vraiment la vivre eux-mêmes. Lorsque l'élève est puni, quelle que soit la punition utilisée, c'est-à-dire que soit la punition de la baguette, celle du bâton ou encore celle du caillou à se transmettre, la punition est marquée par l'humiliation de l'élève face à ses camarades. Et c'est pourquoi on dit que c'est un couteau dans le cœur. C'est le point commun entre les différentes punitions qui ont été infligées aux élèves en Pays Basque Nord. Alors, vous avez pu, pendant que je parle, regarder un petit peu sur la diapositive. Sur l'échantillon étudié de 26 sujets, deux anciens élèves évoquent le bâton autour du cou, qu'on disait le port de lentilles, parce que c'était lentilles basque en fait. Donc ils avaient un collier avec un bâton, et ils se le transmettaient, et le dernier se faisait punir. La baguette, c'était... Donc trois ont connu la punition de la baguette. 11 élèves évoquent une punition écrite à travers des lignes à copier et ou une humiliation orale devant toute la classe. Seulement 2 anciens élèves sur 26 évoquent un caillou ou un autre objet à se transmettre pour qu'à la fin le dernier soit puni. Et 8 anciens élèves sur 26 n'ont pas subi cette interdiction, soit 31% de l'échantillon concerné. La majorité venait du labour, 11 personnes du labour, 9 de Basse-Navar et 6 de Soule. Et c'était un échantillon assez équilibré puisque j'ai eu 11 hommes et 14 femmes. Alors, toujours derrière quand on a des pourcentages comme ça, il faut aussi entendre les expériences des enfants qui parlent et qui racontent que parler leur langue maternelle devenait une faute, et c'est ça qui les a traumatisés. La violence physique existe, mais elle n'est pas la norme dominante dans cet échantillon. L'école agit surtout par des mécanismes de discipline et de honte, plutôt que par de la violence physique directe. Ces données ne prétendent pas être représentatives de l'ensemble du Pays Basque Nord, mais elles permettent d'observer quand même les tendances significatives dans les pratiques scolaires. L'interdiction de parler la langue basque s'appliquait dans la cour Et en classe, c'était pas uniquement en classe, c'était aussi dans la cour en fait qu'ils se dénonçaient entre eux et qu'ils se faisaient, ils se passaient entre eux soit l'objet, donc le caillou, soit le bord de lentille, etc. Donc ces résultats reflètent probablement des pratiques spécifiques au territoire, mais comme je vous l'ai dit, donc on retient que l'interdiction de la langue basque s'inscrit dans une politique plus large. En France, le basque n'est pas visé en tant que tel, ce sont tous les dialectes régionaux, toutes les langues régionales qui sont visées à travers cette politique d'éradication des langues régionales. Les conséquences sociales sont lourdes. Là, on note une rupture de la transmission intergénérationnelle, une dévalorisation culturelle, un sentiment de honte à travers une autocensure et un recul massif de la langue basque. Beaucoup de parents ont cessé de parler la langue basque à leurs enfants dans le but de leur donner une chance. C'est ça en fait, qui pensaient que c'était pour leur bien, qu'ils allaient réussir mieux dans la vie, qu'ils allaient pouvoir faire des études brillantes en parlant le français et en arrêtant de parler la langue basque. Donc souvent ça partait d'une bonne intention, parce qu'on leur avait mis dans le crâne qu'il fallait arrêter de parler la langue basque. Le tournant a lieu dans les années 60-70 avec la naissance des mouvements culturels basques, la création des premières écoles immersives, les ikastolas, et la revendication linguistique et identitaire. C'est la sortie de la logique d'interdiction en fait. Donc pour conclure, l'interdiction de la langue basque à l'école n'est pas seulement une question d'ordre linguistique. C'est une politique qui a profondément transformé les identités, les familles et la transmission culturelle. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Vous venez de suivre « Quand la langue basque était interdite à l'école », une conférence présentée par Constance Dupin, enregistrée dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire. C'était à la médiathèque de Bayonne le 25 mars dernier.